politique.
Les élections municipales.
Les élections municipales.
Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes.
Franck Darcel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 61 ans, vous êtes né à Loudéag, vous êtes écrivain, musicien et producteur de musique bretonne. Vous avez également cofondé le groupe Marquis de Sade avec Philippe Pascal en 1977. Et à la dissolution du groupe, vous avez fondé Octobre. Vous êtes aussi un ancien membre du Parti Breton, un parti politique nationaliste breton, qui notamment avait pour souhait de la création d'une Europe fédérale. Vous défendez l'autonomie bretonne. En 2013, vous avez monté avec Caroline Olivreau, également avec des anciens militants du Parti Breton et des personnes issues de la société civile, le mouvement Braise Europe. Pour les municipales de 2014, vous dirigez la campagne de Rennes-Bretagne-Europe, liste menée par Caroline Olivreau, qui a récolté 3,82% au premier tour. En décembre 2017, vous devenez président du mouvement Braise Europa et vous êtes aujourd'hui candidat à la mairie de Rennes pour les élections municipales de 2020. J'ai rien oublié ?
Non, en gros, ça va, c'est ça.
Ne laissez pas la politique aux professionnels, c'est ce que vous avez déclaré et c'est notamment ce qui vous a poussé à vous engager dans cette campagne. Vous trouvez que la politique, elle est que aux mains des professionnels à Rennes ?
Plus globalement, on est dans un pays où on fait facilement carrière en politique. Et cette notion-là, oui, m'embête un peu. C'est-à-dire que je suis évidemment pour le non-cumul des mandats le plus strict, mais aussi dans le temps, je pense qu'au bout de deux mandats, on doit retourner à la vie civile parce qu'on perd le contact avec les problèmes des gens, les vrais problèmes. Parce qu'au bout d'un moment, si on commence à cumuler deux, trois choses, adjoint à la mairie, plus conseiller métropolitain, plus pourquoi pas conseiller régional, puisque ça c'est encore possible, on tourne à pas loin de 10 000 euros par mois, avec quelques avantages en plus, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe dans la société quand on est à ce niveau-là, quoi. Et surtout qu'on n'est pas très responsabilisé. Et c'est ça qui m'ennuie un petit peu en France, c'est qu'on peut faire des énormes conneries quand on est au pouvoir, et on est très très peu sanctionné. Donc c'est quand même la belle vie.
Vous déclarez ne pas avoir été convaincu par les autres listes. Est-ce que se rassembler pour vous permettre d'avoir un poids dans ces élections, vous y songez tout de même ou pas du tout ?
Sur le premier tour, pas du tout, non. Maintenant, on a démarré. Puis on a quand même une liberté de parole qui est la nôtre. C'est-à-dire, quand vous évoquiez le Parti Breton tout à l'heure, vous avez évoqué le mot nationaliste. Braise Europa n'est pas un parti nationaliste breton. Nous sommes pour une autonomie la plus large. Et nous sommes aussi fédéralistes européens. Je voulais préciser ça. Après, au deuxième tour, voilà, encore faut-il passer 5. C'est le challenge pour nous. Mais c'est difficile d'en parler maintenant. L'important, c'est quand même d'aller au premier tour et de parler, d'évoquer la manière dont on imagine Rennes dans le futur. Voilà.
C'est difficile pour vous d'exister dans la politique, ici, à Rennes ?
Écoutez, 3,2 la dernière fois avec seulement 6 000 euros, c'est vraiment pas cher du point. Et c'est pour ça qu'on a été beaucoup dragué pendant l'été par d'autres listes, parce qu'ils savent que quand on est capable de faire près de... Pardon, excusez-moi, 3,8.
3,82.
82. Et quand on est capable de faire ça avec seulement 6 000 euros, on représente quand même quelque chose. Donc, avec peut-être un peu plus de moyens cette fois-ci, un peu plus d'expérience, atteindre les 5 est quelque chose d'envisageable, tout à fait. Ouais.
Vous évoquez un tournant à venir pour Rennes et la Bretagne. C'est quoi ce tournant ?
Je sais pas, je vois le Braise Lab de Jean-Yves Le Drian, et qui se saisissent de thématiques qui nous intéressent, mais en général, c'est avant les élections, ils font ça, et puis après, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que ce qu'on voit, nous, c'est que la France est le seul pays encore extrêmement centralisé en Europe, parmi les pays de grande taille, en tout cas, et que ça ne peut pas durer, parce que c'est en train de craquer de partout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un domaine où ça se passe bien, en réalité, que ce soit l'hôpital... L'hôpital crie sa misère, l'éducation ça va pas fort, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui pour moi a été réprimé de manière beaucoup trop violente, il s'est passé des tas de choses. Donc à un moment, pourquoi la France ne s'inspire pas de ce qui se passe dans les pays voisins ? Alors, même s'il y a des problèmes aussi, mais il y a aussi des choses en termes de démocratie qui vont beaucoup mieux en Suisse, en Allemagne, en Italie et même en Espagne, même s'il y a un problème en Catalogne. Je soutiens totalement les Catalans, par ailleurs, évidemment. Et là, je vois pas pourquoi la France resterait aussi corsetée dans son centralisme, qui est totalement dépassé. Je dirais juste une dernière chose à ce sujet. Centralisme, ultra-centralisme et démocratie vont rarement bien ensemble. Et sans vouloir passer le point Godwin trop vite, il faut se souvenir que l'Espagne franquiste était extrêmement centralisée, que l'Italie mussolinienne était extrêmement centralisée, et le Portugal, je le connais bien parce que j'y ai vécu longtemps, de Salazar aussi. Donc à un moment, centralisme et démocratie ne vont pas bien ensemble.
Ça sera l'un des axes majeurs, la question de la décentralisation que vous soutenez et la question de plus de prérogatives pour la Bretagne et pour les départements.
C'est évident et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. D'abord parce que en termes de capitale régionale, il n'y a aucune capitale régionale en Europe. Alors, je parle capitale régionale, donc on va dire Milan, Barcelone, Bilbao, Anvers, Munich. Elle n'existe pas sans une région derrière qui a un pouvoir. Or, la Bretagne n'a aucun pouvoir. La région Bretagne, c'est un budget rikiki, c'est très peu de prérogatives. Et si ça ne change pas, on va rester éternellement des provinciaux. Et je crois qu'une des devises de notre liste, c'est... nous, Rennais, ne voulons plus être des provinciaux. Moi, personnellement, je me sens breton européen et je n'ai pas du tout envie d'être un provincial par rapport à Paris. Je ne suis pas un provincial.
Voilà. Justement, vous l'évoquiez, vous souhaitez que Rennes ait vraiment du pouvoir et que Paris arrête de considérer les Bretons comme des provinciaux, mais les Bretons, comme tous les autres Français en dehors de Paris, sont des provinciaux.
Oui, oui, mais on est quand même dans une situation d'infantilisation. C'est très important aussi en termes de crédit. Bon, les chiffres là maintenant, ils sont. Le journal L'Express avait exposé ça il y a quelques mois. Et maintenant, on les obtient directement du site de l'Assemblée nationale. 84% du budget de la culture de l'État est dépensé en Île-de-France. 84%. 1% en Bretagne. Et on met tous pourtant dans le pot commun. Et c'est comme ça dans à peu près tous les domaines. En réalité, l'Île-de-France, elle effectue un véritable racket sur les provinces, les régions, appelez ça comme vous voulez. Je veux dire, ça ne peut pas durer. On pourrait gérer ici, en Bretagne, les choses de manière beaucoup plus sensée, à mon avis, si on pouvait garder une partie des taxes comme nous, pour nous, comme c'est le cas dans les Länder allemands. Après, moi, je ne suis pas indépendantiste, et si la France devenait fédérale, ça m'irait très bien. Autrement, de toute façon, je pense que ça va vraiment dans le mur. Et les gilets jaunes et futurs ex-bonnets rouges nous le rappelleront de temps en temps, et les grévistes aussi de jeudi, etc. Enfin, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume républicain.
Aujourd'hui, l'écologie est un enjeu primordial et va aussi l'être pour les élections municipales à Rennes. Comment vous abordez la question ?
En fait, on aimerait on sait qu'il y a urgence et notre mouvement a toujours été très imprégné d'écologie, mais nous, on voudrait de l'écologie pragmatique. On veut des vraies mesures. Et ce qu'on remarque avec les Verts, c'est pas seulement les Verts rennais, mais les Verts français, quand Voynet participe au gouvernement Jospin, quand Cécile Duflot participe au gouvernement Hollande, c'est qu'au final, les choses n'avancent pas. C'est-à-dire que le fait de se marier avec le PS à chaque fois, le PS n'est pas du tout un parti écologiste, c'est un ancien parti très productiviste, et qui par ailleurs est pro-nucléaire à fond. Donc à chaque fois, les Verts vont un peu faire leur petit tour tout seul au premier tour. Après, ils se rangent avec le PS, et derrière, il ne se passe rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu des ministres verts, Europe Écologie Les Verts, donc dans ces deux périodes que j'ai citées, et la France ne recycle toujours que 25% de ses plastiques. Les voisins européens, c'est 50%. La France a dans son bouquet électrique 70% de nucléaire, et très peu d'énergie renouvelable. Donc à un moment, on voit bien que si nous, en Bretagne, on ne prend pas les choses en main, et avec des résultats, et surtout plus inféodé à des grands groupes comme EDF, Areva, voilà. Et pour l'instant, les Verts, ils ne sont pas sortis de là. Ils avaient cru obtenir la fermeture de Fessenheim quand ils sont rentrés dans le gouvernement Hollande. Fessenheim tourne toujours. Donc à un moment, cette écologie-là, de façade, un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est une écologie de salon, quoi. Je veux dire, ça va bien, ça marche pas. Moi, je suis pour le principe de subsidiarité, hein, qui était inscrit dans le traité de Maastricht et qui régit les rapports entre Berlin et les Länder en Allemagne. C'est-à-dire, ce que je peux faire, moi, au niveau local, je laisse pas le niveau supérieur le faire. C'est-à-dire que la Bretagne devrait avoir la compétence eau, la Bretagne devrait pouvoir gérer son agriculture elle-même. Après, on laisse à l'État, l'État-nation, l'armée, la justice, et voilà. Mais Évidemment qu'en Bretagne, il y a de formidables ressources possibles en hydroliennes. Il suffit de regarder ce qui se passe au Pays de Galles, tout ce qui est en mer d'Irlande. Moi, j'y étais au Pays de Galles, j'ai été visiter de loin. J'ai quand même pris le bateau pour aller voir les champs d'hydroliennes au large du nord du Pays de Galles. C'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. On pourrait avoir exactement la même chose en Bretagne, puisque les coefficients de marée de mer d'Irlande et de Manche sont parmi les plus forts au monde. On fait rien. On a une hydrolienne en test parce que EDF bloque tout. Et à un moment, c'est pas normal. Je pense qu'une ville comme Rennes devrait pouvoir décréter que son bouquet électrique doit venir d'énergie renouvelable. Ça veut dire quelque chose. Et donc, on va s'orienter vers des mesures de la sorte. Mais Rennes, ville verte, ça ne peut l'être que si la Bretagne, à terme, devient une zone zéro pesticide. On doit pouvoir y aller aussi. Ça, les Verts ont tenté des choses dans ce domaine. L'arrêté anti-pesticide du maire de Langouette, c'était une bonne chose. Mais il faut y aller à fond. Je veux dire, il n'y a plus le temps de tergiverser, ni de retourner discuter avec un parti socialiste qui est responsable d'un plan de circulation, par exemple à Rennes, totalement ridicule et qu'on dénonce nous depuis 2008, c'est-à-dire ce métro qui sort pas de la rocade. Le bilan carbone de ce qu'ont fait les socialistes en transport, il est minable. Enfin, je veux dire, voilà. Et bon, et les Verts ont soutenu ça la dernière campagne.
Vous annoncerez dans très peu de temps les personnes qui composeront votre liste, mais vous annoncez d'ores et déjà qui les elles seront issues de la société civile. C'est un peu le truc à la mode de dire que les listes vont être issues de la société civile depuis que Emmanuel Macron est arrivé avec son En Marche, avec un bon nombre de personnes issues de la société civile. Les autres listes ont toutes annoncé ça comme un atout. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus une obligation de la part des listes. Vous ne pensez pas d'avoir des gens issus de la société civile ?
C'est-à-dire que nous, on ne fraye avec aucun parti politique traditionnel. Et donc à partir de là, les gens qui vont composer notre liste auront été façons ouvrières, ouvriers, universitaires. Personne n'aura eu de mandat. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, j'ai été collaborateur politique à la mairie de Rennes, mais je n'ai pas eu de mandat. Mais nous, ce qu'on pourra dire, c'est qu'on va regarder les autres listes. Alors si chacun met tant de place pour la société civile, nous, on sera intégralement société civile. Il y en aura peut-être d'autres, mais la nôtre, c'est complètement société civile.
Je voulais vous poser une dernière question. C'est une question que j'ai posée à toutes les autres listes, tous les autres candidats et candidates que j'ai reçus. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui mettre en place une plus grande écoute des populations dans les quartiers à Rennes ?
C'est très très compliqué parce que à la fois en 2014 et en 2008, et on a gardé des contacts, on est allé vers un peu ce qu'on appelle les grands frères dans les quartiers, etc. Et on voit assez vite que ce qu'on imagine être leur demande, c'est pas ce à quoi ils ont pensé. Et donc je crois qu'il y a une rupture, il y a des vraies ruptures sociologiques entre le centre-ville et les quartiers. Et pour remédier à ça, ça va prendre beaucoup de temps. D'abord parce que beaucoup d'entre eux ne votent plus beaucoup, parce qu'aussi il y a une pratique de financer des associations quelque temps avant les élections, des gens qui prétendent ramener les voix des quartiers vers la mairie. Et donc il y a un peu des associations bidons qui se montent comme ça. C'est tout un tas de pratiques auxquelles il faut renoncer à partir de maintenant. Nous, je sais juste qu'on est par exemple pour la légalisation du cannabis. On pense que c'est quelque chose qui doit se maîtriser. Ce sont des flux d'argent, encore une fois, qui doivent rester ici. Et ça permettrait... Les exemples dans le monde sont plutôt très positifs à ce niveau-là. Et là, les jeunes des quartiers nous ont dit, écoutez, vous êtes gentils, mais on n'a que ça pour vivre, quoi. Donc évidemment, il faut rediscuter tellement de choses. Il faut aussi comprendre que ces gens-là se sentent tellement à l'écart de la République depuis longtemps que recoller le morceau, ça va pas être facile. Et donc moi, j'ai pas de solution toute faite. Sinon, que je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément à nous de nous faire de traduire ce qu'ils veulent. C'est à ces gens-là de s'exprimer. Et pourquoi pas de monter une liste ou de rejoindre des listes. Mais autrement, je me prétends pas être leur porte-parole, voilà. S'ils veulent rentrer en politique, il faut aussi qu'ils fassent comme nous, qu'ils présentent leur liste ou qu'ils frappent à la porte des différentes listes. Sinon, c'est compliqué.
Merci. Franck Darcel, je le rappelle, vous faites partie du mouvement Braise Europa et vous êtes tête de liste pour Rennes-Bretagne-Europe pour les prochaines élections municipales à Rennes en 2020.
Merci beaucoup.
politique.
Les élections municipales.
Les élections municipales.
Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes.